Bonjour Arnaud.
Bonjour Stanislas.
On va parler pendant les prochaines minutes d'une des plus belles, à mon avis, évolutions qu'on peut avoir dans Hyper-V de Windows Server 2012, qu'on appelle le Hyper-V Replica. Alors, peux-tu nous détailler de manière grossière, mais simplifiée, ce que c'est qu'Hyper-V Replica dans Windows Server 2012?
La notion d'Hyper-V Replica part d'un concept assez simple qui est de se dire je voudrais aider en fait mes clients à disposer d'un plan de reprise d'activité après incident et de se dire effectivement, j'ai mes VM qui sont en train de tourner à un instant T sur mon hyperviseur. Je voudrais avoir en fait à ma disposition sur un site secondaire en fait un duplicat quasi temps réel en fait on verra les détails un petit peu plus tard de ma machine virtuelle sur le site secondaire de manière à ce que si j'ai un incident qui se passe sur ma production, j'ai une manière de retourner à un état opérationnel de manière relativement rapide. Donc comment ça va se passer cette histoire de Hyper-V Replica? En fait, on va définir entre mes deux serveurs Hyper-V une relation qui va permettre à de copier les machines virtuelles qui sont en cours d'exécution de mon site A à mon site B. Donc on est là totalement indépendant de l'infrastructure matérielle qui est présente sur les sites. Donc on peut avoir sur mon site principal, on va dire, des choses hébergées sur du Fiber Channel ou des choses hébergées sur un partage de fichiers SMB de manière complètement indépendante du SAN. On est là dans des choses qui sont totalement indépendantes de l'infrastructure.
Je vais préciser qu'effectivement, on peut faire du réplica d'un serveur vers un autre, ou d'un serveur vers un cluster, ou d'un cluster vers un serveur, ou d'un cluster vers un cluster. Donc effectivement, on a toutes les combinaisons possibles imaginables, quelle que soit la taille de l'entreprise et son nombre de machines virtuelles et ses besoins.
Absolument.
Et effectivement, l'idée est de pouvoir redémarrer à minima une infrastructure avec des machines virtuelles en cas de désastre majeur. Un PRA en général n'intervient, un plan d'entreprise d'activité n'intervient que vraiment quand il y a eu un gros souci ou qu'on sait qu'il va y en avoir. On va le voir tout à l'heure. Donc, les scénarios de déploiement sont d'Hyper-V Replica sont nombre de deux principalement. La première option, c'est que vous disposez votre entreprise de deux sites physiquement séparés. Vous mettez les mettre côte à côte. Parce que le PRA peut servir en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas de pas mal de choses. Donc, vous avez un site principal avec votre data center de production et un site secondaire avec au moins quelques serveurs physiques et du stockage qui sont prêts, entre guillemets, à recevoir au moins et exécuter un minimum de machines post-incident. Donc là, on va avoir une réplication entre les deux centres de données, réplication pouvant être plus ou moins rapide en fonction de la tuyauterie, basiquement, qu'il va y avoir entre les deux data centers. Si deux data centers sont séparés par quelques centaines de mètres, ça peut être simplement une connexion Ethernet ou optique entre les deux bâtiments, donc on sera réellement sur du LAN très rapide. Et puis ça peut être également séparé au travers de connexions classiques, du VPN site à site ou des liaisons dédiées. Et là on passera par du WAN, ce sera un peu moins rapide, probablement un peu plus cher également.
Donc là, IFC est une option qu'il faudra bien calibrer, effectivement, comment va fonctionner comme technologie.
On ne peut pas répliquer 1000 machines au travers d'une connexion de type modem. Il n'y a pas de magie non plus. Deuxième option qui va s'adresser peut-être plus à des petites et moyennes structures, TPE, PME, c'est d'avoir effectivement ces X clients, donc la petite structure qui n'a pas, la petite entreprise qui n'a pas forcément deux data centers ou deux salles machines. De passer par un fournisseur externe, un hébergeur ou un fournisseur de services cloud qui va en fait exposer les services d'Hyper-V Replica et servira en fait de stockage des clones prêts à l'emploi et qui servira de plateforme de secours en cas de problème. C'est une belle utilisation du cloud ou d'un hébergement. Donc voilà, on va voir qu'on a prévu deux scénarios. Donc, quels sont les scénarios dans lesquels on va pouvoir utiliser le Hyper-V Replica que tu vas nous détailler un petit peu techniquement parlant après dans la démonstration. Le premier, c'est vous avez déjà un plan de reprise d'activité. Je dis c'est bien parce que une enquête assez récente a montré qu'à peu près 50% des petites et moyennes entreprises n'ont absolument pas de plan de reprise d'activité. Ce qui veut dire que en cas de désastre majeur, eh ben, il reste les yeux pour pleurer, hein, basiquement. C'est l'expression la plus commune.
Oui, et l'improvisation. Et puis on sait que dans des situations d'urgence, il ne reste pas beaucoup de nos facultés intellectuelles en général, hein, oui, pour élaborer un plan de secours.
Et puis en général, il y a toujours une personne en général qui est plus haut dans l'entreprise, qui est derrière notre dos à dire « alors, ça va marcher quand ?» Mm. C'est d'ailleurs dans ces moments-là, souvent, qu'on ressort ces bons vieux backups, hein, les sauvegardes, qu'au passage, on n'a jamais testé. Hein. Et pour des fois, des belles surprises, comme par exemple le fait que la sauvegarde ne s'est jamais bien passée, mais qu'on ne l'avait jamais testée. Voilà. Donc du coup, dans le premier scénario qu'on encourage fortement à faire, c'est de tester déjà le plan d'emploi d'activité. Un plan d'emploi d'activité, ça inclut effectivement de la technique, hein, mais ça inclut également de suivre des procédures qui ont été documentées, parce que quand on est dans un mode un peu de stress et de panique, c'est bien de suivre simplement une procédure qui est claire. Mmh. Et donc, ça veut dire également avoir des personnes formées à utiliser la procédure et à utiliser la technologie.
Alors, donc, la technologie ne remplace pas tout. Hein.
Non, il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Voilà. Donc, premier scénario d'usage d'hyper-réplica, pour tester un plan d'emploi d'activité. Deuxième, c'est mettre un site en maintenance. Vous savez par exemple qu'il va y avoir des chances probables que la zone dans laquelle est situé votre data center soit au cœur, on va dire, d'un désastre climatique prochainement. Moi, j'aime bien reprendre l'exemple des tempêtes tropicales ou de Sydney qui ont lieu aux États-Unis récemment. Globalement, la météo annonce, attention, on a un ouragan qui est en train de nous arriver dessus. Il sera là d'ici 48 heures, il est de force un tel. Barricadez-vous, faites des provisions, prévoyez des piles, enfin voilà. Donc, du coup, on se doute bien qu'un data center qui sera au cœur d'un ouragan, il y a peut-être des chances qu'il ait des problèmes, parce que peut-être qu'il n'y aura plus d'approvisionnement d'électricité, ou que les employés ne pourront pas être là, enfin, il y a plein de raisons derrière. Donc, effectivement, ça peut avoir le coup d'anticiper le désastre et de dire, je vais déplacer ma production vitale pour mon business d'entreprise vers un autre data center ou vers un fournisseur externe, le temps que passe, entre guillemets, l'orage. Anticiper un désastre imminent, pardon, c'est celui-ci, là j'ai swappé les deux, c'est pas grave. Mettre un site en maintenance, c'est par exemple faire des opérations sur votre data center ou sur votre salle machine, voilà, vous êtes en train de la recâbler complètement ou de revoir l'électricité, etc. Ok, vous déplacez les services et les machines vers le deuxième centre de données ou le fournisseur, le temps de cette opération, et puis après voilà. Donc on va dire que ces trois scénarios sont complètement anticipables.
C'est confortable, on a le temps de prévoir tout ça.
Exactement. La gestion d'un désastre soudain, celle-ci est un peu plus complexe. C'est-à-dire, prenez le cas d'une explosion de gaz qui a lieu vers votre salle machine ou un incendie accidentel ou criminel. Ça, en général, c'est rare qu'on le prévoit. Mm-hmm. Et c'est là encore qu'on se trouve au pied du mur qu'on voit que le mur peut être haut si on n'a rien prévu.
Absolument. Donc là, qu'est-ce que nous permettra de faire l'hypervers réplica dans le cas d'un désastre soudain? Parce que dans le cas d'un désastre, on va dire planifié, on a quand même le temps d'éteindre la production, de planifier toutes les opérations. Donc on sait en fait qu'on ne va pas perdre grand-chose.
Rien.
Voilà. Dans le cas d'un désastre soudain, par contre, là, ce qui compte, c'est quand même la résolution.
Effectivement. Donc on va perdre au maximum entre 5 et 15 minutes de données en production. Mmh. Plutôt 5 que 15.
Ouais.
Là, je suis volontairement un peu défaitiste en disant 15, c'est vraiment la marge maximum. Donc, le système d'hyper-V fait qu'on aura un réplica, on va dire, à 5 minutes près de la production. Donc, on peut perdre, effectivement, au pire, 5 minutes. Alors, ces temps ne sont pas modifiables. C'est les temps qu'on a définis dans l'hyper-V. Si vous souhaitez avoir une reprise de l'activité dans la seconde qui suit, et bonne nouvelle, on a également la technologie, ça s'appelle pas hyper-réplica, ça s'appelle un géocluster. Ou un cluster si on est sur le même local, mais là, on va dire géocluster. Mmh. Ça coûte plus cher.
Par contre, j'ai mon lien One qui est un petit peu tout sautant, et ouais, puis je veux faire, on va dire, un réplica, par exemple, une fois par jour, pour dire que j'ai quand même un secours qui est disponible sur mon environnement.
Mais écoute, là encore, on a une autre technologie qui fait ça très bien, qui répond à ton besoin, ça s'appelle un backup. Ah. C'est celui que tu ne vérifies jamais.
Oui, comme le plan Disaster Recovery.
Voilà, on m'encourage à le tester. Donc, dans le cas où on est dans un plan de reprise d'activité qui est, dans une reprise d'activité qui est planifiée, eh bien, on va perdre zéro données, simplement parce qu'on va faire un failover, une bascule qui va être planifiée, donc on va perdre aucune donnée, mais par contre, on aura une indisponibilité du service. C'est-à-dire que pendant le temps d'arrêt de la production avant la bascule, eh bien, effectivement, les services seront arrêtés. On n'est pas sur du live migration comme on peut le connaître dans l'hyper-V. Donc comment ça va marcher? Basiquement quatre étapes. Un, on va arrêter les machines sur le site primaire, les machines virtuelles. On va attendre que les derniers fichiers de log, donc c'est un fonctionnement sous la forme un peu de log shipping. Le dernier log va être envoyé donc au site de réplica, au site de secours. Donc là, on aura strictement le même contenu des deux côtés. Là, à ce moment-là, on peut basculer sur les machines virtuelles qui sont dans le site de secours parce qu'elles sont strictement les mêmes en termes de contenu que la première. Et quand on aura terminé ces opérations de test, de maintenance ou de que le désastre, enfin la tempête par exemple, sera partie, eh bien, on va faire l'opération inverse, la réplication inverse, donc, et rebasculer la machine. Donc arrêter les VM sur le site de secours, attendre, donc créer la réplication et attendre qu'elle soit faite en face, et puis redémarrer les nouvelles VM sur le site de production. CQFD. Tu nous montres ça en démonstration.
Et bien on va regarder ça dans la vraie vie.
Ouais.
Alors j'ai mon petit environnement ici avec un certain nombre de machines virtuelles qui sont en train de tourner. Et puis si je regarde dans mon menu contextuel ici de ma VM, je vois effectivement cette option Enable Replication. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir là-dedans.
Au préalable, est-ce qu'il y a des opérations à faire sur le serveur pour activer le fait que le serveur soit un serveur pouvant recevoir des réplicas?
Alors effectivement, il y a quelques petites étapes préliminaires. Tu veux qu'on y regarde maintenant?
On va regarder avoir la configuration du serveur avant de lancer la réplication.
Eh bien écoute, je te propose de aller voir directement là-dedans.
On est dans les paramètres d'Hyper-V.
Donc on est dans les paramètres du serveur, hein, là, les paramètres globaux du serveur. Et puis effectivement, on va voir que la réplication est bien activée sur ce serveur. Donc ce serveur est bien en fait agissant en tant que réplica.
Serveur qui va recevoir les fameux clones.
Bah effectivement, qui va recevoir, envoyer les fameux clones. Donc, on a là en fait une première section qui va nous conditionner d'une part les méthodes d'authentification et d'autre part les méthodes de transport de mon réplica. Donc, la première option, qui est l'option qui va utiliser un transport en HTTP, va en fait faire une authentification en utilisant le protocole Kerberos. Donc ça c'est bien si je suis à l'intérieur d'un domaine trusté, de forêt trusté. Donc là on a un mécanisme classique sur lequel on n'a pas besoin en fait d'avoir des certificats installés sur les machines. Par contre pour ton scénario où je vais par exemple faire cette réplication avec un partenaire dans le cloud ou en fait pour simplement des machines qui ne sont pas dans le même domaine, je vais pouvoir activer une authentification basée sur HTTPS. Donc je vais devoir spécifier là le certificat qui va être utilisé pour l'authentification avec la machine. Et là, on utilisera par contre un transport sécurisé sur le port 443. Donc là, ce qu'on ne montre pas dans cette interface, c'est que par contre, il vous faudra activer ça également dans le firewall.
Effectivement, quand on va le cocher pour la première fois cette fonctionnalité, il vous dira, et pensez également à aller dans le pare-feu. Dans le pare-feu, vous aurez deux règles. Tu veux nous le montrer?
On y revient tout de suite.
Allez, allez. Le plus cher de bien manger.
C'est parti. Donc, le firewall Windows avec les options de sécurité avancées. Et puis, on va voir en fait ces options dans les règles entrantes de ma machine. On va voir ici.
Donc, à la fin d'Hyper-V, on a deux règles qui apparaissent.
Donc, on a deux règles qui s'appellent Hyper-V, Replica, HTTP Listener et HTTPS Listener. Ouais. Donc, là, tu vois, dans ma configuration, j'ai juste activé le port 80 et l'authentification Kerberos. Donc, j'ai juste débloqué cette règle de firewall.
Ok, donc de base, les deux règles elles sont présentes mais désactivées.
Absolument.
Effectivement, il faut venir les activer soi-même en fonction de ses besoins. En fait.
Voilà. Donc, j'ai vérifié que c'était bien activé dans mon firewall. Je retourne dans mon interface de configuration. Et puis, je vois dans la configuration, en fait, le paramétrage de l'autorisation et du stockage. Donc, ici, ce que ça va nous permettre de définir, ça va nous permettre de dire, bah voilà, les réplicas que tu vas recevoir de tes partenaires, où est-ce que tu vas les stocker dans ton système disque local, et puis qui sera autorisé à t'envoyer des réplicas.
Et c'est là en fait où on fait un peu le distinguo entre soi, on va dire, une même entreprise où on dit, bah écoute, toutes tes machines virtuelles, elles sont dans la même arborescence, mes machines virtuelles réplicas. Et puis bah, la deuxième option qui est de dire, bah, en fonction des serveurs qui vont m'envoyer leur réplica, je vais les stocker dans tel ou tel endroit. Donc là, ce sera peut-être plus orienté pour un fournisseur ou une machine qui est hors domaine et qui prend ça pour plusieurs domaines, dira, bah tiens, quand ça vient de tel serveur, je le stocke dans tel endroit, tel serveur, tel endroit. Et là, du coup, on isole bien les différentes valeurs.
Donc là, on a bien cette partie qui est configurée sur mon infrastructure, sur mes deux serveurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans ma réplication au niveau de ma machine virtuelle. Donc on a le premier écran qu'on ne lit jamais, hein, bien sûr, on peut même maintenant le passer par défaut.
Donc la réplication se fait machine virtuelle par machine virtuelle.
Absolument. Donc là, j'ai pris ma machine qui s'appelle America DC 01, que tu peux voir ici. Et puis je lui dis, bah, cette machine virtuelle, tu vas me passer sur une autre plateforme. Donc ici, on va prendre notre machine HyperSpeed 3. Donc là, il fait vérifier une configuration. Donc en fait, ils vont établir déjà un dialogue préliminaire entre eux pour vérifier qu'ils ont bien les prérequis en matière de communication. Donc ils acceptent bien Kerberos tous les deux et le transport sur le port 80. Donc que la communication est bien ouverte sur le firewall de manière assez typique.
Petite case en bas qui a l'air assez intéressante.
Donc tout en bas, il nous dit effectivement compresser la data qui est transmise sur le réseau. Donc là, effectivement, on se pose la question, est-ce que c'est intéressant de compresser la data avant de la transmettre? Donc est-ce que je veux réellement consommer du cycle CPU pour compresser la data avant de la transmettre? Ou est-ce que je me dis finalement, j'ai une très bonne bande passante entre mes serveurs, la seule chose qui m'intéresse, c'est vraiment tirer parti du câble et envoyer tout ça sur le réseau.
Donc là, on va dire vraiment, le choix va dépendre de est-ce que j'ai deux salles machines, deux data centers qui sont séparés par des connexions très rapides entre elles, donc probablement pas très loin, pas très éloignées géographiquement, ou est-ce que je passe par effectivement un VPN, un site à site, par des liaisons entre guillemets internet, pas forcément très rapide, auquel cas la compression n'est peut-être pas un luxe.
Exactement. Donc on va l'activer dans cette configuration. Ici, il nous détaille en fait les machines virtuelles, les composants de machines virtuelles, donc les disques VHD ou VHDX qu'il a trouvé comme étant attachés à cette machine virtuelle. On va valider ici pour prendre notre environnement par défaut. Et ici, il nous demande en fait quel est l'historique que tu veux garder sur les différents deltas de machines virtuelles qu'on aura transmis sur le réseau.
Donc on a dit tout à l'heure que c'était, on va dire, 5 minutes à peu près, le delta. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir le dernier point de recovery, c'est les 5 dernières minutes.
Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on va garder le dernier snapshot pris à 5 minutes.
D'accord. Et les additional recovery points correspondent à quoi?
Alors ça va en fait correspondre à une accumulation de ces différents points de retour qu'on aura transmis sur le câble.
Et là par contre, ça, après, c'est heure par heure.
Exactement.
Donc, et ça prend plus de place, on discute.
Ça prend plus de place, on a une consolidation des snapshots tous les heures, donc il faudra qualifier ça en matière de stockage sur une machine avec une haute activité et surtout un gros delta entre chaque réplication. Dans les méthodes de réplication initiale, on a la possibilité ici de définir qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire la réplication initiale. Donc première chose, ici on voit que cette machine virtuelle que je cherche à répliquer, elle fait 15 gigas quasiment.
C'est gros pour un WAN.
Alors pour un WAN, effectivement, c'est un petit peu gros, donc on va peut-être vouloir parfois se dire je vais démarrer la réplication plus tard. Donc ça, c'est l'option qui est tout en bas de mon écran ici, je veux dire je veux démarrer la réplication.
Le week-end par exemple.
Voilà. Ou une autre option qui t'est exposée ici, tu peux le voir, c'est qu'il nous dit envoyer réplica initiale sur un média. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prendre un disque dur avec BitLocker ou BitLocker to go, et puis tu vas transmettre ça à ton coursier qui va aller tranquillement dans le data center, fournir ça à tes équipes opérationnelles qui vont copier le contenu du média sur le serveur distant.
Effectivement, dès qu'on commence à penser à plus d'une machine répliquée, à 5-10 machines, multiplié par 15 gigas minimum par machine, peut-être mieux de prendre un bon disque dur.
Exactement. Et puis on a une autre option qui est d'utiliser en tant que machine de réplica, une machine déjà existante sur mon serveur. Donc on est dans le cas là où on va récupérer une machine qui existait au préalable et utiliser cette base comme information. Donc on valide, il nous effectivement récapitule les informations que l'on vient de lui spécifier, et puis on va activer la réplication. Donc là, il nous dit j'ai activé la réplication, mais il y a un petit truc que je me permets de te spécifier. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit écoute, j'ai bien effectivement activé la réplication entre tes machines, par contre j'ai vu que les cartes réseau sur lesquelles ta machine virtuelle était connectée là n'existait pas, en fait le réseau virtuel n'existait pas sur la machine distante. Donc là il nous dit si tu veux je peux te donner la possibilité de le binder directement sur un autre switch virtuel. Donc il nous donne un raccourci, c'est ce qu'on voit dans settings pour aller spécifier ça dans les propriétés de la machine virtuelle.
Alors, du coup je m'interroge, quand on va déplacer une VM, une machine virtuelle d'un data center numéro 1 vers un numéro 2, il est quand même probable que sur le data center numéro 2, le plan d'adressage IP ne soit pas le même. Du coup, ça veut dire que, est-ce que dans les procédures de reprise d'activité, les administrateurs vont devoir, une fois que les machines sont restaurées, aller se connecter dessus, modifier leur plan d'adressage IP pour que toutes les machines reparlent entre elles sur le plan d'adressage IP en fait, du nouveau data center. Ce qui, à mon sens, n'était pas forcément le plus pertinent dans un état un peu de stress tel qu'on peut être quand on fait un plan de reprise d'activité.
Bien, c'est effectivement basé sur ce constat-là, Stan, qu'on a fourni une fonctionnalité pour notre plateforme. Donc là, ce que je trouve, c'est qu'on va aller voir sur la machine qui est actuellement mon partenariat de réplication. Et donc, on voit que leur application est en train de tourner, hein, parce que là, il nous dit « receiving changes ». Donc, effectivement, on voit que leur application est bien en train de se passer. Donc, par contre, si je vais dans les propriétés de ma machine virtuelle, je vais avoir ici, en fait, au niveau des cartes réseau, une option qui s'appelle « failover TCP ». Donc, c'est exactement ça, en fait. Ce « failover TCP », ça va être une opération faite par conjonction entre mon switch virtuel et mes integration components de ma machine, qui vont me permettre de dire, bah, à partir du moment où tu vas discuter sur le réseau, ta machine, elle aura l'impression d'avoir son IP, son adresse IP classique et habituelle, sauf qu'on va avoir une réécriture à la volée, en fait, qui va être faite pour cette machine virtuelle.
Donc, ça veut dire qu'en tant qu'administrateur, je vais venir placer dans ces paramètres-là l'adressage IPv4 du réseau du deuxième data center,
absolument,
celui de secours. Je ne touche pas à l'adressage de ma VM qui est répliquée. Donc si mon deuxième data center est en 192 et que mon data center numéro 1 est en 10.0 quelque chose, dans ma VM, je laisse le paramétrage 10. Quelque chose, qu'elle a été clonée, elle est strictement la même. Et là, je vais venir mettre ici dans ces paramètres le plan d'adressage du nouveau data center qui est le 192 quelque chose.
Et c'est exactement l'idée.
Et donc en fait, le switch extensible d'Hyper-V va me faire la translation d'adresse IP en fait à la volée. Et du coup, je ne me pose pas de questions.
Dans le cas de Disaster Recovery, ce qu'on veut, c'est automatiser tout ce qui peut l'être. Donc effectivement, ça, c'en est un bel exemple. Donc si on regarde également les propriétés réseau, tant qu'on est dans ce cas, on a effectivement une autre case qui s'appelle Test Failover. Et le Test Failover, ben, c'est quoi? Eh bien effectivement, ça va être quelque chose qui nous permet de dire, dans le cas du test, tu vas passer sur une carte réseau qui sera différente. On est d'accord que...
On part démarrer effectivement la même machine, le réplica dans un même réseau que le deuxième, parce qu'on risque d'avoir peut-être des conflits.
Ça pourrait être un petit peu embêtant pour la production, on va dire.
Donc c'est là où on crée un réseau de test, en fait, virtuel, et voilà. Puis qu'on envoie les machines dedans et qu'elles communiquent entre elles pour
donc,
le test.
Effectivement, donc à partir du moment où tu auras spécifié cette configuration de manière correcte, c'est-à-dire que quand tu voudras tester ton réplica, bah, automatiquement la machine virtuelle va être créée et bindée sur ce réseau. Et donc tu pourras en fait avoir toutes tes machines dans le cas de ton test failover qui vont être bindées ensemble sur ce réseau. Et tu pourras tester la communication dans un cas un petit peu réel.
D'accord.
Donc là, si on retourne dans ma console d'administration de mes machines virtuelles, donc on voit qu'en fait j'ai bien activé la réplication sur mon environnement. Je vois que l'état de la réplication est bien à normal. J'ai rajouté en fait la petite colonne qui n'est pas présente par défaut, Replication Health.
Oui, donc il faut venir en fait sur les titres des colonnes, faire bouton droit.
Hop, donc Add Remove Colonne.
Et là, effectivement, normalement.
Et là, j'ai rajouté Replication Health.
Replication Health.
Donc ça me permet d'avoir une vue synthétique sur l'ensemble des tas des réplications sur mon environnement. Si je veux aller un petit peu plus loin dans le monitoring de l'état de ma réplication, j'ai toujours la partie réplication qui va me permettre de voir en fait la partie view replication.
État de santé.
Donc voilà, view replication health. Donc si on va juste jeter un petit coup d'œil, on va voir qu'effectivement sur l'état de cette machine, bah, j'ai bien une réplication qui s'est bien passé. Donc là, je viens juste de le créer, donc effectivement, on voit qu'un seul cycle de réplication qui s'est passé il y a moins de 5 minutes. Et puis le volume moyen de données, bah, c'est effectivement 15 gigas, puisque tu vois que j'ai transmis la réplication initiale uniquement, donc j'ai tout envoyé par le câble.
Et on voit que ça s'est fait il y a moins de 5 minutes. Effectivement, quand tout est vert, c'est qu'on a plus de 80% des cycles de réplication qui se passent bien.
Donc on a déjà un petit indicateur de l'état de santé de tout ça. Donc là, tu te dis, bah, j'ai ma machine virtuelle qui est présente en tant que réplica de ma machine primaire. Mais par contre, on sait tous qu'une petite mauvaise manip peut arriver parfois. Donc je me dis, bah, tiens, America DC, il n'est pas démarré, qu'est-ce que je peux faire? Je vais la démarrer. Donc là, l'administrateur étourdi démarre la machine. Là, qu'est-ce que ça nous dit?
Ah, que non, on n'a pas le droit de démarrer une machine qui existe déjà sur le réseau.
Eh ben ouais, en fait, ça nous dit, tu as déjà une machine qui est réellement en train de tourner. Donc si tu veux démarrer un réplica, ça veut dire que tu es dans le cas d'un plan de continuité d'activité ou d'un plan de reprise d'activité.
Ou d'un test.
Donc tu peux uniquement le démarrer dans ces conditions-là. Donc effectivement, ça correspond à des options qu'on a dans notre menu contextuel ici. Je suis sûr que tu avais remarqué ça tout à l'heure. On a bien effectivement deux options. Donc soit le failover.
Ça veut dire qu'il y a eu réellement un problème sur la production et on veut démarrer ces réplicas comme étant les référents.
Donc là, c'est le bouton rouge. C'est le champignon.
Champignon.
Et puis, on a l'autre option, test failover, où ça, c'est en fait la partie où je vais juste tester que tout ça marche bien. Donc, si je fais test failover, en fait, on va voir à quoi ça correspond réellement. Si tu fais test failover, il va dire, bah voilà ce que j'ai trouvé comme point de retour sur ta production. Donc là, j'en ai un seul, puisque je n'ai pas gardé l'historique dans ma configuration de tout à l'heure. Donc là, j'ai fait test failover. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait, tu vois, qu'il va me créer un duplicat de la machine virtuelle telle qu'elle était à cet instant. En fait, il ne va pas utiliser le réplicat en tant que tel, puisqu'il va continuer à recevoir des changements sur ce réplicat. Hein. Mais donc, il va créer une différenciation. Et donc, par contre, cette machine virtuelle, bah là, j'aurai absolument la possibilité de la démarrer et de faire mon test. Et elle sera démarrée dans le contexte réseau que j'aurai défini dans ma configuration de mon réplicat.
Parfait. Écoute, c'est tout à fait clair. Je te remercie.
Merci, Stanislas.